Germaine de Staël, Delphine, partie 2, lettres 18 à 25 comprises. Lettre 18. Léonce à M. Barton. Paris, ce 15 septembre. Enfin, je suis décidée, mon cher maître, sur le parti que je dois prendre. Je verrai Mme d'Albémare avant d'aller en Espagne. Une femme à qui je n'aurais pas permis, dans le temps heureux de ma vie, de prononcer le nom de Delphine, Mme de R, m'a expliqué, je le crois, les contradictions qui m'étonnaient dans la conduite de Mme d'Albémare. Avant mon arrivée, elle avait contracté des engagements avec M. de Serbellane. Mais il est vrai que depuis elle m'a aimé, et peut-être l'est-il aussi, que ce sentiment a blessé M. de Serbellane et qu'ils sont maintenant brouillés. Le séjour de Mme d'Albémare à Bellerive, son trouble, son embarras en me voyant, tout peut se comprendre si, en effet, elle se reproche de n'avoir pas été vraie avec moi. Je ne puis plus avoir pour elle cet enthousiasme sans bornes qui me la représentait comme une créature sublime. Mais n'est-il pas simple que, si elle a sacrifié ses liens avec M. de Serbellane, son attachement pour moi, j'éprouve encore pour elle un attendrissement profond. Cependant, ne me connaissait-elle pas lorsque son amant a passé 24 heures chez elle? Ô pensée de l'enfer, écartons-la s'il est possible. Je veux revoir Delphine. C'est un ange tombé, mais il lui reste encore quelque chose de son origine. Je lui dois, d'ailleurs, quelques excuses avant de la quitter pour toujours. Elle a peut-être souffert quand elle m'a su l'époux de Mathilde. C'était une action dure de me marier, de rompre avec elle, sans l'informer, même par un mot, de mon dessein. Madame de Vernon m'a fortement pressée, hier encore, d'aller en Espagne. Elle craint, je crois, que je ne lui fasse des reproches sur ses pertes continuelles au jeu. Son inquiétude est mal fondée. C'est le moment d'avoir des torts avec moi. Je ne me souviens de rien, je suis insensible à tout. Mais pourquoi Madame de Vernon ne m'a-t-elle jamais dit que Delphine m'avait aimé, qu'elle désirait pouvoir rompre avec son premier choix? Madame de Vernon avait-elle peur qu'après tout ce qui s'était passé, je consentisse à remplacer M. de Serbellane? C'était bien peu me connaître. Mais elle ne devait pas se refuser à me donner un sentiment doux quand j'étais irritée, dévorée, quand un mot qui m'eût laissé respirer m'aurait fait plus de bien qu'une goutte d'eau dans le désert. Le soulagement dont j'ai besoin, je le trouverai peut-être dans une conversation de quelques heures avec Mme d'Albémare. Je suis donc résolue de lui écrire, pour lui demander de me recevoir à Bellerive. Ce n'est point à Paris, c'est dans la solitude que je veux lui parler. Elle y retournera demain, ma lettre lui sera remise après-demain à son réveil. Vous n'avez rien à redouter pour mes devoirs de cette explication, mon cher maître. J'apprendrai que Delphine m'aime encore, que mes résolutions ne seraient point changées. Elle ne peut plus se montrer à moi telle que je la croyais, et l'idée parfaite que j'avais d'elle pourrait seule décider de mon sort. Si, comme je l'espère, Mme d'Albémare consente à me recevoir, si elle me montre quelques regrets, je saurai me tracer un plan de vie triste mais calme. Je partirai pour l'Espagne, j'y resterai quelques années, dussé-je y faire venir Mme de Mondeville. Je veux quitter la France après avoir revu Mme d'Albémare. Nous nous séparerons sans amertume. Je pourrai supporter mon sort. Mes regrets ne finiront point, mais la plupart des hommes ne vivent-ils pas avec un sentiment pénible au fond du cœur? Enfin, ne me blâmez pas. J'ose vous le répéter, ne me blâmez pas. On doit permettre au caractère passionné de chercher une situation d'âme quelconque qui leur rende l'existence tolérable. Pensez-vous que je puisse vivre plus longtemps dans l'état où je suis depuis 2 mois. Il me faut une autre impression, fût-ce une autre douleur, il me la faut. Vous me connaissez de la force, de la fermeté. Je sais souffrir. Eh bien, je vous le dis, je succombais, et ce cri de miséricorde ne m'échappe qu'après les combats les plus violents que le caractère et le sentiment, la raison et la souffrance se soient jamais livrés. Lettre 19. Monsieur de Cerbellane à Madame d'Albémar. Cette lettre fut remise le 16 septembre au soir à Madame d'Albémar. Lisbonne, ce 4 septembre 1790. Je viens vous demander, madame, le plus éminent service, le seul qui puisse détourner l'irréparable malheur dont je suis menacée. Thérèse, après avoir assuré le sort de sa fille en passant quelques mois dans ses terres de Bordeaux, veut obtenir de la famille de son mari la permission de vous confier l'éducation d'Isaure, et, tranquille alors sur le sort de cet enfant, elle est résolue à se faire religieuse dans un couvent dont le père Antoine, son confesseur actuel, a la direction. Ainsi mourrait au monde et à moi la meilleure et la plus charmante créature que le ciel ait jamais formée. Le Dieu que Thérèse adore serait-il un Dieu de bonté s'il lui commandait un tel supplice? Les coutumes barbares des sociétés civilisées ont fait de Thérèse à 14 ans l'épouse d'un homme indigne d'elle. La nature, en faisant naître M. d'Hervin 25 ans avant Thérèse, semblait avoir pris soin de les séparer. Les indignes calculs d'une famille insensible les ont réunis, et Thérèse serait coupable de m'avoir choisi pour le compagnon de sa vie. Il est impossible, je le sens, qu'au milieu du monde elle porte le nom de mon épouse. Il faut respecter la morale publique qui le défend. Elle est souvent inconséquente, cette morale, soit dans ses austérités, soit dans ses indulgences. Néanmoins, telle qu'elle est, il ne faut pas la braver, car elle tient à quelque vertu dans l'opinion de ceux qui l'adoptent. Mais quel devoir, quel sentiment peut empêcher Thérèse de changer de nom et d'aller en Amérique m'épouser et s'établir avec moi? Vous trouverez ce projet bien romanesque pour le caractère que vous me connaissez. Il m'est inspiré par un sentiment honnête et réfléchi. J'ai fait imprudemment le malheur d'une innocente personne. Je dois lui consacrer ma vie quand cette vie peut lui faire quelque bien. D'ailleurs, si la disposition de mon âme me rend peu capable de passions très vives, elle me rend aussi les sacrifices plus faciles. L'Europe, l'Amérique, tous les pays du monde me sont égaux. Quand une fois on connaît bien les hommes, aucune préférence vive n'est possible pour telle ou telle nation, et l'habitude qui supplie à la préférence n'existe pas en moi, puisque j'ai constamment voyagé. Peut-être même est-il assez doux, lorsque l'on n'est point poursuivi par les remords, de rompre tous ces rapports que la durée de la vie vous a fait contracter avec les hommes, de s'affranchir ainsi de cette foule de souvenirs pénibles qui oppresse l'âme, et souvent arrête ses élans les plus généreux. Je me replacerai au milieu de la nature avec un être aimable qui partagera toutes mes impressions. J'essaierai sur cette terre ce qu'est peut-être la vie à venir, l'oubli de tout, hors le sentiment et la vertu. Thérèse est beaucoup plus digne qu'aucune autre femme de la destinée que je lui propose. En s'enfermant dans un couvent pendant le reste de ses jours, elle exerce plus de courage pour le malheur que je ne lui en demande pour le bonheur. Un principe de devoir fortifié par la religion peut seul, j'en suis sûr, la déterminer à se sacrifier ainsi. Mais en quoi consiste-t-il donc, ce devoir? À quelle expiation est-elle obligée? Quel bien peut résulter pour les morts comme pour les vivants du malheur qu'elle veut subir? Si elle se croit des torts, ne vaut-il pas mieux les réparer par des vertus actives? Nous emploierons en Amérique la fortune que je possède à des établissements utiles, à une bienfaisance éclairée. Thérèse n'aura pas rempli, j'en conviens, les devoirs que les hommes lui avaient imposés. Mais ce qu'elle a choisi, mais ce que son cœur lui permettait d'accomplir, elle y sera fidèle. Il faut que je la voie. C'est le seul moyen qui me reste pour la faire renoncer à sa cruelle résolution. Toute autre tentative serait vaine. Mes lettres n'ont rien produit. Le spectacle seul de ma douleur peut la toucher. Obtenez-moi donc, madame, un sauf-conduit pour passer 15 jours en France. L'envoyé de Toscane le demandera, si vous le désirez. Je voulais arriver sans toutes ces précautions misérables. Mais j'ai craint pour Thérèse l'éclat que pourrait avoir mon emprisonnement si la famille de M. Dervin l'obtenait. Je ne doute pas que l'intention de cette famille ne soit de persécuter Thérèse. Mais ce ne sont point de semblables motifs qui pourront l'engager à me croire. Il n'y a que ma peine qui puisse agir sur elle, et jamais il n'en exista de plus profonde. Depuis qu'une expérience rapide m'a donné de bonne heure les qualités des vieillards, en me décourageant comme eux de l'espérance, je ne fatiguais plus le ciel par la diversité des vœux d'un jeune homme. Je ne lui demandais qu'une grâce, c'était de n'avoir jamais à me reprocher le malheur d'un autre. Car le remords est la seule douleur de l'âme que le temps et la réflexion n'adoucissent pas. Elle va me poursuivre, cette douleur. C'est en vain que j'avais émoussé la vivacité de tous mes sentiments. La raison aura détruit mon illusion sur les plaisirs sans adoucir l'âpreté de mes chagrins. L'image de cette douce, de cette angélique Thérèse immolant sa jeunesse, ensevelissant elle-même sa destinée, cette image enveloppée des voiles de la mort me poursuivra jusqu'au tombeau. Vous, madame, qui avez le génie de la bonté, la passion du bien et tout l'esprit des anges, secourez-moi. Je vous envoie un ami fidèle qui, après vous avoir remis cette lettre et reçu votre réponse, doit revenir sur les frontières de France où je l'attendrai. C'est à lui seul que vous voudrez bien donner le sauf-conduit que je désire si ardemment. Vous l'obtiendrez, car jamais rien n'a pu être refusé à vos prières, et vous sauverez Thérèse et moi d'un malheur, d'un supplice éternel. Adieu, madame. Je me confie à votre bonté. Elle ne trompera point mon espoir. CH de Cerbellane. PS. Il importe que Madame Dervin ne sache pas que mon intention est de revenir en France. Lettre 20. Léonce à Delphine. Paris, ce 17 septembre. Les nouveaux devoirs que j'ai contractés doivent désormais me rendre étranger à votre avenir. Cependant, ne me refusez pas de le connaître. Permettez-moi de m'entretenir quelques instants seul avec vous, à l'heure que vous voudrez bien m'indiquer. Je pars pour l'Espagne après vous avoir vu. Cette grâce que je vous demande sera sans doute le dernier rapport que vous aurez jamais avec ma triste vie. Je ne devrai plus conserver aucun doute sur vos torts envers vous-même comme envers moi. Cependant, si vous aviez des chagrins, si je pouvais vous pardonner, je partirais plus calme et peut-être moins malheureux. Léonce. Lettre 21. Delphine à Léonce. Ce 17 septembre. Me pardonner? Je vous verrai, monsieur. Quoique votre billet ne mérite peut-être pas cette réponse, j'ai besoin pour ma propre dignité d'une explication avec vous. Je dois consacrer ce jour tout entier à des devoirs d'amitié que vous ne m'apprendrez point à négliger. Mais demain, choisissez l'instant que vous préférerez. Je vous forcerai, je l'espère, à me rendre toute l'estime que vous me devez. C'est dans ce but seul que je consens à vous entretenir. Je ne puis concevoir ce que vous voulez me demander sur mon avenir. Il vous est facile de le deviner. Je vais passer le reste de mes jours avec ma belle-sœur, et je n'ai plus dans ce monde où ma confiance a été trompée ni un intérêt, ni un espoir de bonheur. Delphine. Lettre 22. Delphine à Mademoiselle d'Albémar. Ce 17 septembre au soir. Léonce m'a écrit pour me demander de me voir. Je n'ai point hésité à y consentir. Je dirai plus, j'ai regardé comme une faveur du ciel l'occasion qui m'était offerte de connaître enfin les torts dont il m'accuse et d'y répondre avec vérité, peut-être avec hauteur. Ne vous livrez, ma sœur, à aucune inquiétude en apprenant que je n'ai pas cédé à vos conseils. Léonce n'est point à craindre pour moi, quels que soient les sentiments qu'il m'exprime. S'il voulait faire renaître dans mon âme la passion qui m'attachait à lui, s'il voulait me rendre méprisable par cet amour même dont il aurait pu faire ma gloire et son bonheur. Non, Léonce, non. Celle que vous n'avez pas jugée digne d'être votre femme n'accepterait pas vos regrets si vous en éprouviez. Je ne suis pas comme vous, impitoyable envers des torts de convenance, des fautes apparentes, des actions condamnées par la société, mais que le cœur justifie. Je vous montrerai que la véritable vertu a d'autant plus de force sur mon âme que j'abjure tout autre empire. Cette Delphine que vous croyez si faible, si entraînée, sera courageuse et ferme contre l'affection la plus passionnée de son cœur, contre vous. Oui, je le serai, ma sœur, quoique je donnasse ma vie pour obtenir encore une heure, pendant laquelle je puisse me persuader qu'il m'aime et qu'il n'est pas l'époux de Mathilde. C'est demain que Léonce doit venir. J'ai eu la force de m'occuper encore aujourd'hui de faire avoir à M. de Cerbellan un sauf-conduit pour rentrer en France. Il m'avait écrit pour m'en conjurer, et j'ai trouvé son désir bon et raisonnable, car je crois, comme lui, qu'il n'existe aucun autre moyen d'empêcher Thérèse de se faire religieuse. Elle ne m'a point encore confié cette funeste résolution. Mais M. de Cerbellan m'a mandé qu'il la sait d'elle, et toutes mes observations me confirment ce qu'il m'écrit. J'ai donc été à Paris ce matin pour voir l'envoyé de Toscane. Il était absent, mais comme il doit passer la soirée chez Madame de Vernon, je l'ai prié de lui remettre une lettre de moi qui contient ma demande pour M. de Cerbellan et de l'appuyer en la lui donnant. Madame de Vernon réussira tout aussi bien que moi dans cette affaire. Et, troublé comme je le suis, il m'était impossible de paraître au milieu du monde. Je suis donc revenu ce soir même à Bellerive. Il est déjà tard. Le jour qui précède demain va finir. L'agitation de mon cœur est violente, et cependant je n'ai pas d'incertitude. Il ne peut m'arriver rien de nouveau que plus ou moins de douleur dans un adieu sans espoir. Ma sœur, du haut du ciel, votre frère, mon protecteur, veille sur moi. Il ne souffrira pas que Delphine, infortunée mais pure, mais irréprochable, déshonore ses soins, ses bontés, son affection, en se permettant des sentiments coupables. Je ne sais ce que j'éprouve maintenant dans cette émotion de l'attente qui suspend toutes les puissances de l'âme. Mais quand Léonce sera venu, mon âme se relèvera, et, dû la vertu, m'ordonner de le voir demain pour la dernière fois de ma vie, Louise, j'obéirai. Lettre 23. Delphine à Mademoiselle d'Albémar. Ce 18 septembre à minuit. J'avais tort, ma sœur, véritablement tort de m'occuper de la conduite que je tiendrai avec M. de Mondeville. il se préparait à m'en épargner le soin. Il ne voulait, sans doute, que m'éprouver, savoir si je serais assez faible pour consentir à le revoir. Il se jouait de mon cœur avec insulte. Il est parti la nuit dernière pour l'Espagne. La nuit dernière, et c'était aujourd'hui. Ah, c'en est trop. Toute mon âme est changée. Je vous parlerai de lui avec sang-froid, avec dédain. Ce départ est mille fois plus coupable que son mariage. Aucune erreur, de quelque nature qu'elle soit, ne peut l'expliquer. C'est de la barbarie froide, légère. Je ne retrouve pas même ses défauts dans cette conduite. Je me suis trompée. J'ai mis une illusion, la plus noble, la plus séduisante de toutes, à la place de son caractère. Eh bien, renonçons à cette illusion comme à toutes celles dont le cœur est avide. Il faut, tant qu'il est ordonné de vivre, repousser les affections qui rattachent à l'idée du bonheur. Dès qu'elles le promettent, elles trompent. Adieu, Louise, je n'ai que des sentiments amers. Je répugne à les exprimer. Adieu. Lettre 24. Delphine à Mademoiselle d'Albémare. Ce 21 septembre. Je n'ai pas eu, depuis 2 jours, la force de vous écrire. Je craindrais, cependant, qu'un plus long silence ne vous inquiétât. Je ne veux pas le prolonger. Mais que puis-je dire maintenant? Rien, plus rien du tout. Il n'y a pas même dans ma vie de la douleur à confier. J'ai du dégoût de moi, puisque je ne peux plus penser à lui. Il n'y a rien dans mon âme, rien dans mon esprit qui m'intéresse. Je ne pars pas immédiatement, parce que Thérèse reste encore quelque temps chez moi et que Madame de Vernon est malade, peut-être ruinée. Je veux la consoler et réparer ainsi mes injustes soupçons contre elle. J'ai encore en ma puissance de la fortune et des soins. Je veux faire, de ce qui me reste, du bien à quelqu'un, et s'il se peut, surtout à Madame de Vernon. Je m'étonne que je puisse servir à quoi que ce soit dans ce monde. Mais enfin, si je le puis, je le dois. Je veux tâcher d'engager Madame de Vernon à venir avec moi dans les provinces méridionales. Ce voyage est nécessaire à l'état menaçant de sa poitrine. Si elle a dérangé sa fortune, je lui offrirai les services que je peux lui rendre. Mais je ne lui donnerai point de conseils sur la conduite qu'elle doit tenir désormais. Hélas, sais-je juger? Sais-je découvrir la vérité? Sur quoi pourrait-on s'en rapporter à moi quand je n'ai pu me guider moi-même? Ma tête est exaltée. Je n'observe point. Je crois voir ce que j'imagine. Mon cœur est sensible, mais il se donne à qui veut le déchirer. Je vous le dis, Louise, je ne suis plus rien qu'un être assez bon, mais qu'il faut diriger, et dont, surtout, il ne faut jamais parler à personne au monde, comme d'une femme distinguée sous quelque rapport que ce soit. J'ai pourtant encore quelque sorte de besoin de vous raconter les dernières heures dont je gardais l'idée, celles qui ont terminé l'histoire de ma vie. Je ne veux pas que vous ignoriez ce que j'ai encore éprouvé pendant que j'existais. Seulement, ne me répondez pas sur ce point. Ne me parlez que de vous et de ce que je peux faire pour vous. Ne me dites rien de moi. Il n'y a plus de Delphine, puisqu'il n'y a plus de Léonce. Crainte, espoir, tout s'est évanoui avec mon estime pour lui. Le monde et mon cœur sont vides. Il faut l'avouer pour m'en punir. Le jour où je l'attendais, il m'était plus cher que dans aucun autre moment de sa vie. Depuis l'instant où le soleil se leva, quel intérêt je mis à chaque heure qui s'écoulait. De combien de manières je calculais quand il était vraisemblable qu'il viendrait. D'abord, il me parut qu'il devait arriver à l'heure qu'il supposait celle de mon réveil, afin d'être certain de me trouver seul. Quand cette heure fut passée, je pensai que j'avais eu tort d'imaginer qu'il la choisirait, et je comptai sur lui entre midi et 3 heures. À chaque bruit que j'entendais, je combinais par 1000 raisons minutieuses s'il viendrait à cheval ou en voiture. Je n'allais pas chez Thérèse, je n'ouvris pas un livre, je ne me promenais pas, je restais à la place d'où l'on voyait le chemin. L'horloge du village de Bellerive ne sonne que toutes les demi-heures. J'avais ma montre devant moi, et je la regardais quand mes yeux pouvaient quitter la fenêtre. Quelquefois, je me fixais à moi-même un espace de temps que je me promettais de consacrer à me distraire. Ce temps était précisément celui pendant lequel mon âme était le plus violemment agitée. Ce que j'éprouvais peut-être de plus pénible dans cette attente, ce fut l'instant où le soleil se coucha. Je l'avais vu se lever lorsque mon cœur était ému par la plus douce espérance. Il me semblait qu'en disparaissant, il m'enlevait tous les sentiments dont j'avais été rempli à son aspect. Cependant, à cette heure du découragement, succéda bientôt une idée qui me ranima. Je m'étonnais de ne pas avoir songé que c'était le soir que Léon choisirait pour s'entretenir plus longtemps avec moi, et je retombais dans cet état, le plus cruel de tous, où l'espoir fait presque autant de mal que l'inquiétude. L'obscurité ne me permettait plus de distinguer de loin les objets. J'en étais réduite à quelques bruits rares dans la campagne, et plus la nuit approchait, plus ma souffrance était uniforme et pesante. Combien je regrettais le jour, ce jour même, dont toutes les heures m'avaient été si pénibles. Enfin, j'entends une voiture. Elle s'approche, elle arrive. Je ne doute plus. J'entends monter mon escalier. Je n'ose avancer. Mes gens ouvrent les deux battants, apportent des lumières, et je vois entrer Madame de Mondeville et Madame de Vernon. Non, vous ne pouvez pas vous peindre ce qu'on éprouve lorsqu'après le supplice de l'attente, on passe par toutes les sensations qui en font espérer la fin, et que, trompé tout à coup, on se voit rejeté en arrière, 1000 fois plus désespéré qu'avant le soulagement passager qu'on vient d'éprouver. Je n'avais pas la force de me soutenir. L'idée me vint que Léon s'allait arriver, qu'il s'en irait en apprenant que je n'étais pas seul, et que je ne retrouverais peut-être jamais l'occasion de lui parler. Je reçus Madame de Mondeville et sa mère avec une distraction inouïe. Je me levai, je me rassis, je me relevai pour sonner, je demandai du thé, et craignant tout à coup que cet établissement ne les retînt, je leur dis « Mais vous voulez peut-être retourner à Paris ce soir ?» Elles arrivaient. Rien n'était plus absurde. Mais je ne pouvais supporter la contrariété que leur présence me faisait éprouver. Madame de Vernon s'approchait de moi pour me prendre à part avec l'attention la plus aimable. Lorsque Madame de Mondeville la prévint et me dit « J'ai voulu accompagner ma mère ici ce soir. Son intention était de venir seule, mais j'avais besoin de votre société pour me distraire du chagrin que j'ai éprouvé ce matin, en apprenant que mon mari avait été obligé de partir cette nuit pour l'Espagne. » À ces mots, un nuage couvrit mes yeux et je ne vis plus rien autour de moi. Madame de Mondeville se serait aperçue de mon état si sa mère, avec cette promptitude et cette présence d'esprit qui n'appartiennent qu'à elle, ne se fût placée entre sa fille et moi, comme je retombais sur ma chaise, et ne l'eût priée très instamment d'aller dire à un de ses gens de lui apporter une lettre qu'elle avait oubliée dans sa voiture. Pendant que Mathilde était sortie, Madame de Vernon me porta presque entre ses bras dans la chambre à côté et me dit « Attendez-moi, je vais vous rejoindre. » Elle alla conseiller à sa fille de monter dans la chambre qui lui était destinée et lui dit que j'avais besoin de repos. sa fille, ne demanda pas mieux que de se retirer et ne conçut pas le moindre soupçon de ce qui se passait. Madame de Vernon revint. J'avais à peine repris mes sens, et lorsqu'elle s'approcha de moi, oubliant entièrement les soupçons que j'avais conçus, je me jetai dans ses bras avec la confiance la plus absolue. Ah, j'avais tant besoin d'une amie. Je l'aurais forcée à l'être quand son cœur n'y aurait pas été disposé. Combien de fois lui répétai-je avec déchirement. Il est parti, Sophie, quand il devait me voir aujourd'hui même. Quelle insulte, quel mépris. J'avouai tout à Madame de Vernon. Elle avait tout deviné. Elle me fit sentir avec une grande délicatesse, quoique avec une certaine évidence, à quel point j'avais eu tort de me défier d'elle. Ne voyez-vous pas, me dit-elle, combien un homme qui se conduit ainsi avait de prévention contre vous? Vous avez cru qu'il était jaloux de M. de Serbellane? Pouvait-il l'être après la confidence que je lui avais faite de votre part? Le dernier billet même que vous lui avez écrit, où vous lui annoncez, me dites-vous, votre résolution de rester en Languedoc, ce billet ne détruisait-il pas tout ce qu'on a répandu sur votre prétendu voyage en Portugal? Non, je vous le dis, c'est un homme qui a conservé du goût pour vous, ce qui est bien naturel, mais qui ne veut pas s'y livrer parce que votre caractère ne lui convient pas. Et quand son goût l'entraîne, il prend des parties décisives pour s'y arracher. Il n'y a rien de plus violent que Léonce. Vous le savez, sa conduite le prouve. Il s'en est allé cette nuit sans me prévenir. Il a instruit seulement sa femme par un billet assez froid qu'une lettre de sa mère le forçait à partir à l'instant. Et j'ai su positivement par ses gens qu'il n'avait point reçu de lettre d'Espagne. C'était donc vous qui l'évitait. Cette crainte même est une preuve qu'il redoute votre ascendant. Mais jamais il ne s'y soumettra, quand votre délicatesse pourrait vous permettre à présent de le désirer. Je voulus me justifier auprès de Madame de Vernon de la moindre pensée qui pût offenser Mathilde. Mais cette généreuse amie s'indigna que je crusse cette explication nécessaire. Elle me témoigna la plus parfaite estime. L'embarras que je remarque quelquefois en elle était entièrement dissipé, et du moins, à travers ma douleur, j'acquis plus de certitude que jamais qu'elle m'aimait avec tendresse. Hélas, sa santé est bien mauvaise. Les veilles ont abîmé sa poitrine. J'ai voulu l'engager à parler d'elle, de ses affaires, de ses projets, mais elle ramenait sans cesse la conversation sur moi, avec cette grâce qui lui est propre. Ne se lassant pas de m'interroger, cherchant, découvrant toutes les nuances de mes sentiments, réussissant quelquefois à me soulager et n'oubliant rien de tout ce que l'on pouvait dire sur mes peines. Enfin, sans elle, je ne sais si j'aurais supporté cette dernière douleur. Ce que je ressentais était amer et humiliant. Sophie m'a relevée à mes propres yeux. Elle a su adoucir mes impressions et me préserver du moins d'une irritation, d'un ressentiment qui aurait dénaturé mon caractère. Louise, vous n'étiez pas auprès de moi. Il a bien fallu qu'une autre me secourût. Mais dès que Thérèse m'aura quittée, dans un mois, je viendrai. Je m'abandonnerai à vous et, si je ne puis vivre, vous me le pardonnerez. Lettre 25. Léonce à M. Barton. Bordeaux, 23 septembre. L'auriez-vous cru que ce serait de cette ville que vous recevriez ma première lettre? Je devais la voir et je suis partie. Je suis venue sans m'arrêter jusqu'ici. Je comptais aller de même jusqu'à ce que j'eusse rencontré cet homme insolemment heureux que l'on fait revenir en France. La fièvre m'a pris avec tant de violence qu'il faut bien suspendre mon voyage. Mais monsieur de Serbellane passe par ici, je le sais. Il a mandé qu'il y viendrait. Il est peut-être plus sûr de l'y attendre. Oui, je suis partie lorsqu'elle avait consenti à me voir, lorsqu'elle avait, sans doute, préparé quelques ruses pour me tromper. Je suis partie sans regret, mais avec un sentiment d'indignation qui a changé totalement ma disposition pour elle. Mon ami, lisez bien ces mots qui m'étonnent plus que vous-même en les traçant. Madame d'Albémar n'a mérité ni votre estime ni mon amour. Quand elle me répondit qu'elle me recevrait, je n'osais pas vous l'écrire, mon cher maître. Mais je ne pouvais contenir dans mon sein la joie que je ressentais. Je me promenais dans ma chambre avec des transports dont je n'étais plus le maître. Quelquefois, cette vive émotion de bonheur m'oppressait tellement que je voulais la calmer en me rappelant tout ce qu'il y avait de cruel dans ma situation, dans mes liens. Mais il est des moments où l'âme repousse toute espèce de peine. Et ces idées tristes qui, la veille, me pénétraient si profondément, glissaient alors sur mon cœur comme s'il avait été invulnérable. Je m'étais enfermée. Un de mes gens frappa à ma porte. Je tressaillis à ce bruit. Tout événement inattendu me faisait peur. Je redoutais même une lettre de Madame d'Albémar. Je craignais une émotion, fût-elle douce. On me remit un billet de Madame de Vernon qui me demandait de venir la voir à l'instant pour une affaire de famille importante. Il fallut y aller. Madame de Vernon me dit d'abord ce dont il s'agissait. Et je regrettais, je l'avoue, d'être venue pour un si faible intérêt. L'instant d'après, elle prit à part l'envoyé de Toscane qui était chez elle et me pria d'attendre un moment pour qu'elle pût me parler encore. Je l'entendis qui lui disait « Voici la lettre de Madame d'Albémar. Appuyez auprès du ministre sa demande en faveur de monsieur de Serbellane. » À ce nom, je me levai et je m'approchai de Madame de Vernon, malgré l'inconvenance de cette brusque interruption. Elle continua de parler devant moi, et j'appris, juste ciel, j'appris que Madame d'Albémar avait été voir le matin même chez l'envoyé de Toscane pour obtenir par son crédit un sauf-conduit qui permit à monsieur de Serbellane de revenir en France malgré son duel. N'ayant point trouvé l'envoyé de Toscane, elle lui écrivait pour lui renouveler cette demande. Elle en chargeait Madame de Vernon. J'ai vu l'écriture de Madame d'Albémar. Elle a obtenu ce qu'elle désirait. Et dans 15 jours, monsieur de Serbellane doit être en France. Oui, il y sera, mais il m'y trouvera. Je le forcerai bien à me donner un prétexte de vengeance. Mon parti fut pris tout à coup. Je résolus d'aller au-devant de monsieur de Serbellane et de partir, sans délai. Si j'étais resté un seul jour, je n'aurais pu résister au besoin de voir Madame d'Albémar pour l'accabler des reproches les plus insultants, et c'était encore lui accorder une sorte de triomphe. Mais ce départ, à l'instant même où son billet faible et trompeur me donne la permission de la voir, ce départ, sans un mot d'excuse ni de souvenir, l'aura, je l'espère, offensée. J'ai écrit à Madame de Mondeville pour lui donner un prétexte quelconque de mon voyage. Je n'ai voulu dire adieu à personne. Mes gens, en recevant mes ordres pour mon départ, me regardaient avec étonnement. Je me croyais calme, et sans doute quelque chose trahissait en moi l'état où j'étais. Si j'avais vu quelqu'un, mon agitation eût été remarquée. Peut-être Delphine l'aurait-elle apprise. Il faut qu'elle me croie dédaigneux et tranquille. C'est tout ce que je désire. Si je mourais du mal qui me consume, mon ami, jamais vous ne lui diriez que c'est elle qui me tue. J'en exige votre serment. Je me sentirais une sorte de rage contre ma fièvre si je pensais qu'elle pût l'attribuer à l'amour. J'ai voulu m'éloigner aussi de Madame de Vernon. Je la hais. C'est injuste, je le sais. Mais enfin, Toutes les peines que j'ai éprouvées, c'est elle qui me les a annoncées. Depuis mon mariage même, chaque fois qu'une idée, une circonstance me faisait du bien, le hasard amenait de quelque manière cette femme pour me découvrir la vérité, j'en conviens, la vérité, mais celle qu'on ne peut entendre sans détester qui vous l'a dit. Ne combattez pas cette prévention, je la condamne. Mais que ne condamnais-je pas en moi? Et je ne puis me vaincre sur rien. Ah, qu'il serait heureux que je mourusse. Cependant, ne craignez pas que M. de Serbellane me tue. Non, il n'est pas juste que tout lui réussisse. Il me semble que c'est assez des prospérités dont il a joui. S'il met le pied en France, il en trouvera le terme.
Thank you.